Métaphysique, commentaire du livre aux États, par le père Marie-Dominique Philippe, le 25 octobre 1984 à Saint-Joseph.
On est mieux ici, plus en intimité. Ne vous inquiétez pas, c'est le premier cours, le second, il y aura moins de monde. Alors, on va essayer ensemble d'entrer dans la métaphysique d'Aristote, ce qu'on appelle la métaphysique d'Aristote, c'est-à-dire, au fond, ce qu'Aristote appelle la philosophie première. Il y a une question, d'abord, première, c'est ici, on voit bien que c'est de l'extérieur. Hein. Les coups de bâton. Il faut situer un peu l'ensemble des œuvres d'Aristote. Je crois qu'on vous l'a déjà fait, ou bien on ne vous l'a pas fait. Rien du tout là-dessus. On vous fait un cours sur Aristote cette année-ci, Platon et Aristote. Hein. Donc, c'est important de voir ça. Bon, alors, je vais dire en très gros ce que représentent justement les différentes œuvres d'Aristote. Il y a d'abord ce qu'on appelle d'une façon générale les œuvres logiques. Aristote est reconnu par tout le monde, là tout le monde est d'accord qu'Aristote est le père de la logique. Étant donné que chez Platon, on est en présence d'une dialectique, et la dialectique de Platon ne fait pas la distinction entre le point de vue logique et le point de vue de la pensée philosophique. La dialectique, c'est sa pensée philosophique. Aristote est le premier, donc, à avoir distingué, c'est une distinction qui est très subtile et qui est très intéressante, le contenu de la pensée philosophique et la manière dont l'intelligence procède. On dit le conditionnement de la vie de l'intelligence qui va se transmettre à travers notre langage et qui est notre manière de raisonner. Et puis le contenu de la pensée. Le contenu de la pensée, c'est ce qui spécifie la pensée, c'est ce qui la détermine. Alors que la manière dont nous approchons du réel, la manière dont nous le divisons, la manière dont nous l'élaborons, c'est ce qui s'appellera méthodos. Et tout le point de vue de la logique est donc quelque chose qui vient aider à penser avec plus de précision et de manière plus correcte. Donc la logique n'est pas le contenu de la pensée. C'est ça qui est très très important parce que avec la scolastique décadente, on retombera dans le même travers, c'est qu'au fond, la logique sera tout. C'est comme ça que je crois que la métaphysique a été absorbée. Elle a été absorbée par la logique. Et quand il s'agit par exemple des voies d'existence, des voies d'accès vis-à-vis du problème, c'est le point de vue logique qu'on voit avant tout. Alors que il y a une pensée derrière métaphysique. Et cette pensée métaphysique étant elle-même toujours très subtile, comme toujours la pensée métaphysique, c'est l'aspect de la méthode qui se voit en premier lieu. C'est plus facile pour nous. Donc, le grand-père et le père de la logique, c'est Aristote. Alors, il faut savoir les livres d'Aristote au point de vue logique. Je ne fais pas un cours sur Aristote ici, alors je passe dessus. Et sachez qu'il y a là quelque chose d'important à voir. Et ensuite, après le traité de la logique, d'une façon générale, on donne les traités de la connaissance spéculative. Je ne sais pas du tout si Aristote a suivi cet ordre-là. Je ne le crois pas. Mais c'est ce qu'on donne habituellement. Je crois qu'Aristote était beaucoup plus professeur et savait la méthode d'enseigner qu'il ne commençait pas par la philosophie de la nature. Mais c'est possible. Toujours est-il, traditionnellement, on a commencé par la philosophie de la nature. Et dans toute la scolastique, on a pris toujours la philosophie de la nature en premier lieu. La philosophie de la nature, vous voyez, c'est une connaissance philosophique, théorétique, qui qui regarde ce qui est nu. Et la phusis, c'est justement le principe propre de ce que représente ce qui est nu. Dans le traité de la philosophie de la nature, il y a le traité du ciel, qui vient après. Le traité de la physique, c'est le traité très important, fondamental. Puis le traité du ciel est un traité particulier. Dans le traité du ciel, vous comprenez que pour Aristote, c'est quelque chose de très spécial, parce que pour lui, les étoiles, le soleil, étaient une matière qui n'était pas la nôtre. Il y avait une matière particulière, une matière qui résistait à la corruption. C'était donc une matière qui n'était pas, vers le point de vue de l'être et du non-être, une matière non corruptible. Alors c'est ce qu'on appelle la quintessence. Et vous voyez pourquoi on dit la quintessence ? C'est pour tout simplement le cinquième élément. Il y a les quatre éléments qui constituent notre monde sublunaire. La terre, l'eau, l'air et le feu. Les quatre éléments ne sont pas d'Aristote. Ça a été dit avant Aristote, mais Aristote les a précisés pour vraiment montrer que ce sont des éléments. C'est-à-dire que vous ne touchez jamais l'eau dans toute sa pureté. Vous ne touchez jamais la terre dans toute sa pureté. C'est toujours mélangé. Les quatre éléments sont toujours liés ensemble. Il y a un mouvement perpétuel dans les quatre éléments. Donc, déjà, le point de vue de l'élément, c'est une analyse. Et alors, il y a un cinquième élément, qui est la quintessence, qui est l'élément de notre monde, du soleil, des étoiles. Vous voyez ? Du monde sensible, incorruptible. Pour Aristote, les astres n'étaient pas corruptibles. Évidemment, vous ne pouvez plus maintenir ça. Hein. Vous ne pouvez plus maintenir ça. Mais le problème de la quintessence, je crois, reste comme un problème toujours intéressant à se poser. Qu'est-ce qui fait en réalité l'unité de l'univers ? C'est le problème que Teilhard s'est posé. Qu'est-ce qui fait l'unité de l'univers ? Alors, Teilhard dit la lumière, saint Thomas avait déjà dit la lumière, et Aristote avait déjà dit la lumière. Alors, quand on trouve ces trois personnes dire la même chose, c'est intéressant, non, puisque c'est par le point de vue de la lumière qu'on fait l'unité de notre univers physique. Alors, la lumière était, pour Aristote, rattachée au feu et rattachée plus profondément à la quintessence. Mais c'était quelque chose qui faisait l'unité. Et la lumière était une qualité, c'est pas un corps au sens absolu. C'est une qualité. Qualité d'un corps pour Aristote. Alors ça reste un très gros problème. Mais c'est toujours intéressant de se poser, parce que ça, c'est un problème philosophique, l'unité de notre univers. C'est que notre univers a sûrement une unité. Alors à côté du Decello, il y a le problème, au contraire, de la génération du corruptionné. Vous voyez, le monde. Au-delà de la Lune, c'est le monde incorruptible. C'est le monde du Soleil. Le monde sublunaire, qui est le nôtre, c'est le monde de la corruption et de la génération. Nous sommes des êtres corruptibles, des êtres qui naissent. Ça, c'est pour vous montrer tout de suite la grande division qu'Aristote donne, et ça, c'est important de noter, dans le monde sensible et mu, il y a le corruptible et l'incorruptible. C'est pour ça que la division du corruptible et de l'incorruptible est une division qui, chez Aristote, est très très importante dans le monde physique. À côté de ce problème de la génération et de la corruption, il y a le problème les météorologiques. C'est toute l'étude de l'atmosphère. Vous voyez, comme aujourd'hui, on étudierait ce que c'est que l'atmosphère. L'atmosphère nécessaire pour l'apparition de la vie. Alors pour Aristote, il ne donne pas comme ça, mais alors il y a des choses très amusantes à lire. C'est un livre de chevet le soir, quand on veut s'amuser, c'est très amusant à lire, les météorologiques. Les arcs-en-ciel, l'explication des arcs-en-ciel. De tous les nuages et tout ça. Alors, deuxième, à l'intérieur de la philosophie de la nature, la philosophie du vivant. Alors, le livre des parties des animaux, c'est aussi très amusant à lire. Le livre sur la marche des animaux, et surtout le grand livre du vivant, le Péripsuchès, le livre sur l'âme. Mais vous voyez que normalement, avant le Péripsuchès, il ne faut pas l'oublier, il y a le livre des parties des animaux, c'est-à-dire du corps. Hein. Le corps organique, le vivant implique un corps organique. Et puis la marche, parce que le vivant, c'est celui qui se meut. Et donc c'est très important. Et puis alors, ensuite, on étudie le principe du vivant, alors qui est le point de vue justement de l'âme. Et à côté de l'âme, dès qu'on regarde l'âme, on regarde le point de vue non seulement du vivant, mais aussi du vivant qui connaît. Alors il y a des petits livres très intéressants qu'on appelait les Parva Naturalia au Moyen-Âge. C'est le livre sur les sens et du sensible, de la mémoire et de la réminiscence, du sommeil et du réveil, des rêves, de la divinisation selon les songes, de la motion des animaux. Et puis alors le livre de la génération des animaux, qui est un livre très important pour Aristote. La génération des animaux représente justement un mouvement très... une opération très caractéristique. Puis alors de la longueur et de la brièveté de la vie, de la jeunesse, de la vieillesse, de la vie, de la mort et de la respiration. Vous avez quand même pas mal de livres sur le vivant, vous voyez. Ça, c'est reconnu. Aristote est quand même le premier grand philosophe qui a traité du vivant. Alors évidemment, on en a cherché des raisons. Et son père était médecin, et donc nécessairement, il s'intéressait, étant donné que la médecine et la philosophie de la vie ont toujours été très liées. Et de nouveau, je crois qu'en effet, aujourd'hui, il faut que la philosophie du vivant s'intéresse à la biologie et essaie de comprendre les rapports qu'il peut y avoir entre les deux. Un philosophe de la philosophie de la vie s'intéresse toujours à la biologie. Alors, s'il ne peut pas être biologiste, il doit avoir au moins des amis biologistes. Parce que je crois que c'est très important pour la philosophie du vivant. D'avoir des amis biologistes sur lesquels on puisse se référer de temps en temps et puis discuter avec eux. Ensuite vient la philosophie première, ce que nous allons voir ensemble. Vous voyez, alors, après la philosophie première, qui est le sommet de la philosophie théorétique, vous avez la philosophie humaine. Dans la philosophie humaine, vous avez l'éthique à Eudème, l'éthique à Nicomaque, il y a deux éthiques. Vous avez ensuite le livre de la politique, et vous avez le point de vue de la rhétorique et la poétique. La rhétorique est considérée à la rhétorique est considérée à la politique. Intéressant de le noter. La rhétorique est considérée à la politique, puisque nous voyons la rhétorique, la politique. La rhétorique est considérée à la politique comme la logique est considérée à la connaissance spéculative. Mais au fond, il y a une logique propre. Il faudra se demander pourquoi. Il y a une logique propre à la philosophie politique. Alors, voyons le sommet de la pensée spéculative. On a beaucoup, beaucoup discuté. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur le problème historique. C'est très intéressant de voir si ces livres de la métaphysique représentent une unité ou ne représentent pas d'unité. Alors là, c'est l'avis des commentateurs. Parce qu'on les a rassemblés ensemble. Hein. On les a rassemblés ensemble. Vous avez le texte de Jaeger, c'est le bon texte grec, pour ceux qui lisent le grec, c'est bon de l'avoir. Et vous avez l'édition de Baker. Vous savez que quand on donne des références d'Aristote, on les donne toujours en fonction de Baker. Ça, il faut comprendre. Hein. Les références d'Aristote se donnent toujours en fonction de Baker. Baker fait autorité. Mais c'est la Vulgate. Non, ça fait autorité. Alors, c'est à l'égard de Baker qu'il faut donner les références. Du reste, on envoie toujours les références à cela. Et ainsi que notre cher ami Tricot, hein, qui fait la traduction. Je ne suivrai pas la traduction de Tricot. Parce qu'elle est un tout petit peu trop déliée, tu vois. Parce que quatrième percée, Tricot tricote. Il ne faut pas l'oublier. Alors c'est comme, puisqu'il tricote, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien où est le nœud primitif. Il y a le retour, il y a des tas de choses. C'est intéressant du reste. Vous savez qu'il faisait ça dans ses voyages en chemin de fer avant le TGV. Alors il avait du temps et il pouvait faire c'est travailler ça dans le chemin de fer. Il travaillait, il s'intéressait beaucoup. Alors on voyait un monsieur qui était avec la et puis qui travaillait comme ça. C'était lui, et puis donnait tout ça successivement. Il avait un tel amour d'Aristote. Il a voulu traduire le plus qu'il pouvait Aristote. C'est récent. Ça aide quand même, hein, ça aide quand même. Puis ça occasionne d'autres traductions. Parce qu'on dit Tricot n'est pas bon, donc on corrige Tricot. Tandis que s'il n'y avait pas Tricot, on ne corrigerait pas Tricot. Alors à ce moment-là, c'est bon. C'est bon de voir qu'il y a d'autres traductions successives. Alors, vous avez une traduction qui est tout à fait... La traduction latine reste une traduction intéressante, surtout ceux qui regardent le commentaire de saint Thomas, puisque saint Thomas a regardé avant tout la traduction latine. Saint Thomas ne regardait pas le texte grec. Dit-on, il ne connaissait pas très bien le grec. Alors, ça vous encourage. Mais alors, l'Aristote est traduit en arabe. Alors, ceux qui peuvent traduire, lire Aristote en arabe, c'est très très bien. Et puis, ça peut mieux comprendre Avicenne. Puis alors, Aristote est traduit ensuite en latin. Il y a deux traductions, il y en a une qui a été faite pour saint Thomas, et puis ensuite vous avez les traductions multiples et diverses, voyez, en langues diverses. Alors pour nous avons notre traduction Tricot qui sert de base. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé le livre Zeta et j'ai voulu en donner une traduction. Alors on prendra un petit peu cette traduction qui est plus facile que celle de notre cher M. Valmès, qui est une traduction qui veut être très très fidèle au texte, mais alors qui est très difficile quand on n'a pas le texte grec. Quand on a le texte grec, on comprend. Mais autrement, c'est très difficile. Mais pour ceux qui veulent s'atteler alors à une vraie traduction, et qui peuvent prendre ça, on regardera ça de temps en temps. Alors je vais d'abord avec vous, parce que je crois que c'est utile, de faire un petit peu la synthèse de ces différents livres. Ces différents livres, justement, c'est là où les problèmes se sont posés d'une façon très nette. Quand vous regardez le commentaire de saint Thomas, je prends le commentaire de saint Thomas parce que c'est quand même reconnu aujourd'hui comme un des grands commentaires d'Aristote. Vous aviez Averroès et Avicenne. Hein, Avicenne, du reste, c'est plus une repensée de lui-même qu'un commentaire. C'est quand même intéressant. À Fribourg, j'avais quelqu'un de Damas qui connaissait parfaitement l'arabe et qui a beaucoup travaillé à Avicenne. Et ça m'intéressait beaucoup puisqu'il a essayé de reprendre Avicenne dans le véritable Avicenne. Parce qu'aujourd'hui, on fait une distinction entre l'Avicenne traduit en latin et l'Avicenne pure. Alors, ça fait deux perspectives différentes. Et il est évident que l'Avicenne latin ne donne pas tout l'Avicenne. Et donc, il y a une autre perspective. Alors, le commentaire de saint Thomas représente un commentaire très important. Je ne crois pas que saint Thomas commente Aristote pour connaître la pensée d'Aristote. Ça chatouille beaucoup tous les modernes, je comprends. Saint Thomas commente Aristote en vue d'utiliser Aristote pour sa théologie. Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que si on ne voit pas ça, voyez, alors on donne un Aristote qui n'est peut-être pas du tout Aristote. Et ça n'empêche que c'est quand même très intéressant. Parce que c'est un grand esprit qui travaille sur un grand esprit. Une grande intelligence sur une grande intelligence. C'est toujours intéressant de voir, vous voyez, deux intelligences qui se rencontrent. Et il est évident que saint Thomas essaie de comprendre Aristote au point de vue sagesse. Ce qui l'intéresse, c'est que Aristote dit, nous le verrons très rapidement, qu'Aristote dit au début de la philosophie première, il dit au début que de fait, cette philosophie première est une sagesse. Et que c'est une théologie. Alors ça pose des tas de problèmes. La philosophie première semble bien être science, sagesse, théologie. Alors est-ce que c'est la même ? Est-ce que c'est la même science ? Ou est-ce que c'est deux sciences différentes? C'est très, très difficile. On pourra discuter indéfiniment. Je ne crois pas qu'on peut donner une solution absolue. On peut discuter indéfiniment. Vous pourrez regarder le livre de José Lorité, sur la métaphysique, qui est, au fond, on a beaucoup travaillé ensemble là-dessus. Je ne dis pas, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui. Mais parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir ces choses-là, la structure de la philosophie d'Aristote telle qu'elle nous est donnée. Alors, je prends la position de saint Thomas. La position de saint Thomas, c'est d'essayer de comprendre l'unité. C'est très net. Saint Thomas va essayer, va faire un effort extraordinaire d'intelligence prodigieuse, parce que même quand les textes sont inintelligibles, saint Thomas les rend intelligibles. C'est comme ça. Même quand des textes sont intelligibles, même quand il y a des choses qui de fait, saint Thomas les... Ça, c'est le bois, vous comprenez? C'est la grande intelligence de saint Thomas qu'il avale. Et puis là, c'est intelligent. Lire le commentaire de saint Thomas sur Aristote, c'est un excellent travail. La seule difficulté, c'est que ce n'est pas traduit. Faites-vous les dents au point de vue du latin, parce que c'est quand même, il faut savoir lire le latin de saint Thomas, hein. Et donc il faut savoir lire le commentaire de saint Thomas sur Aristote, qui n'est pas toujours commode, mais c'est un commentaire. Et le genre commentaire de saint Thomas, comme quand saint Thomas commente saint Jean, il y a un genre particulier qui est de commenter. Et saint Thomas commente Aristote très nettement, comme un philosophe, c'est-à-dire l'ami de la sagesse. C'est l'ami de la sagesse. Le philosophe, c'est l'ami de la sagesse. Et ce qui intéresse saint Thomas, c'est la Sophia, c'est la sagesse. Alors, l'ami de la sagesse, vous voyez, c'est très intéressant de voir ça. Vous voyez, ça, c'est l'ennemi de la sagesse. C'est pas tout à fait l'ami de la sagesse. Alors, l'ami de la... Vous voyez que l'intention était efficace. Alors, saint Thomas regarde l'ami de la sagesse comme ayant autorité. Et ça aussi, c'est une chose très curieuse. Je me suis amusé une fois à faire un petit article là-dessus parce que ça m'intéressait beaucoup de voir qu'est-ce que c'était que l'autorité chez saint Thomas. Et de voir comment saint Thomas, lorsqu'il est en face d'un philosophe, le considère comme un ami ayant autorité, parce que c'est l'ami de la sagesse. Dans la mesure où vous êtes ami de la sagesse, dans la mesure où vous cherchez la vérité, vous acquérez une autorité. Et tout le monde, hein, tous ceux qui cherchent la vérité, ils ont tous une autorité du fait même qu'ils cherchent la vérité. Si vous cherchez la vérité, on doit vous regarder comme ayant une certaine autorité. Si vous ne cherchez plus la vérité, ça c'est autre chose. Alors, très bien. Vous délectez dans le domaine des opinions et donc d'une dialectique et de la rhétorique. Mais le jour où vous cherchez la vérité, c'est différent. On doit respecter quelqu'un qui cherche la vérité. Et quelqu'un qui cherche la vérité, son intelligence acquiert une autorité. Et c'est pour ça que saint Thomas considère toujours que le philosophe a une certaine autorité. Pas la même autorité, évidemment, que les pères de l'Église, pas la même autorité que la parole de Dieu, mais on fait attention, on tient compte de lui. Donc saint Thomas a un très grand respect pour Aristote. Ça, je crois que nous n'avons pas du tout le même respect. Hein. Un très grand respect pour Aristote. Pour lui, c'est le philosophe, il l'a choisi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il l'a choisi. Il l'a choisi à partir d'Avicenne. Vous voyez, son maître, Albert le Grand, lui n'a jamais connu Aristote directement. Il a connu Aristote à travers Avicenne. Il n'a jamais connu directement la métaphysique. Les traités des vivants, je crois qu'il les a connus aussi à travers... Ça, on discute. Mais, au fond, comme Albert le Grand s'intéressait plus à la philosophie de la nature et à la philosophie du vivant que à la philosophie première, on comprend très bien qu'il soit moins intéressé. Tandis que saint Thomas, tout de suite, s'est intéressé à la philosophie première d'une façon très particulière. Et là, c'est là son commentaire de voir dans toutes les... Dans tous les différents livres, une unité. Saint Thomas n'a pas commenté tous les livres. les livres mus et nus, qui sont les deux derniers, saint Thomas ne les a pas commentés. Donc ça se termine, si vous voulez, au livre lambda. Mus et nus demeurent des livres extrêmement intéressants, qui, c'est vrai, ne font pas directement partie de la synthèse, mais c'est Thomas les laisse de côté. Alors, le gros problème, c'est qu'à partir d'une centaine d'années à peu près, on a commencé à voir la question de l'évolution de la pensée. Ça a été un leitmotiv constant pour tout le monde. De voir les différents moments, les différents aspects. Alors, on a appliqué évidemment ça à Platon, on l'a appliqué à Aristote. Un de ceux qui sont les plus importants à voir, c'est Jäger. Jäger a beaucoup étudié Aristote sous cet aspect-là. Et vous comprenez que le point de vue sur lequel on se plaçait, c'était celui-ci. Il y a Platon. Tout le monde sait qu'Aristote a été très longtemps à l'école de Platon. De 18 ans. À partir de 18 ans, sans doute. À 18 ans. On entre au noviciat de Platon. C'est quand même quelque chose à l'académie. On entre à l'académie, Platon, Aristote a 18 ans. Pendant 20 ans, il reste à l'école. C'est quelque chose. 20 ans de vice. Vous voyez ça? Alors, il a le temps de ruer un peu dans le regard. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Tandis que Platon, lui, Socrate, ben, il a été 8 ans. Et c'est quand même quelque chose de prodigieux. Alors, il y a une chose très intéressante, hein. C'est évidemment de voir toute la pensée platonicienne dans Aristote et toute la réaction d'Aristote sur Platon. C'est un lieu extraordinaire. Bien dommage qu'ils soient encore vivants, parce que ce serait quand même extraordinaire de voir l'influence de Platon sur Aristote. Elle est visible. Et la réaction d'Aristote sur Platon. De sorte que, voyez, vous pouvez regarder de l'influence de Platon sur Aristote, de l'influence d'Aristote sur Platon. Ça a été fait, du reste. Ça a été fait, mais on peut toujours le refaire, parce que plus on avance, plus on connaît. Et je suis persuadé qu'Aristote a eu une influence sur Platon. C'est impossible autrement. Parce que il y avait un dialogue, une espèce de péripatéticien. Pour Aristote, l'académie c'était plus évidemment quelque chose, mais c'est impossible étant donné ce que c'était que les Grecs qu'il n'y ait pas une réaction mutuelle. Alors ça posait pas de problème. Mais voyez, l'intérêt c'est que si on étudie l'évolution d'Aristote, on part d'Aristote lié à Platon. Tous les termes communs. Nous platoniciens, il y a ça. Nous académiciens. Nous, le nous d'Aristote qui montre qu'il est lié à Platon. Et puis ensuite, le dernier moment d'Aristote où Aristote est tout à fait lui-même, si j'ose dire. Vous voyez que c'est un petit peu faux, ça, comme perspective. Ça voudrait dire qu'Aristote s'est laissé emmiéler par Platon et qu'à un moment donné, il a voulu réagir violemment pour être parfaitement lui-même. Je crois que jamais Aristote a eu cette pensée. Donc, on projette sur Aristote ce que nous avons. Je crois que Platon et Aristote cherchent la vérité. Tous les deux. Tous les deux. Aristote ne pourrait pas dire « j'aime Platon et la vérité, tous les deux, mais j'aime plus la vérité ». Il ne pourrait pas dire ça si Platon ne cherchait pas la vérité. Mais il la cherche différemment. Il la cherche différemment. Vous voyez, il y a chez Platon une espèce de créativité étonnante qui fait que le point de vue de la vérité et la conception de la vérité n'est pas la même. Ce que Heidegger a souligné en montrant les deux conceptions de la vérité, c'est intéressant, là aussi on peut discuter, mais c'est intéressant de voir qu'en effet, Aristote a formalisé beaucoup plus ce côté que la vérité que Platon. Mais la place de la vérité vient prendre une place importante dans Platon. C'est bien évident de voir le mythe de la caverne. Et le mythe de la caverne nous montre bien combien le problème de la vérité était le souci profond d'un Platon. Donc tous les deux cherchent la vérité. Alors, si tous les deux cherchent la vérité, Aristote a suivi Platon parce que Platon, ça devait être quelque chose de très séduisant et merveilleux, Platon, d'étonnant. Et on voyait très bien tous les jeunes suivaient Platon parce que Platon avait comme une espèce d'art merveilleux au point de vue philosophique, au point de vue sagesse philosophique. Et puis, progressivement, Aristote n'est pas d'accord sur certains points, mais on est tous d'accord, je reste presque tout le monde, que très vite Aristote, très vite Aristote a réagi contre Platon à propos des formes en soi. Les formes en soi, le modèle, vous voyez, les formes en soi, le cheval en soi, hein, l'homme en soi. Aristote n'a pas. Pourquoi ? Parce qu'Aristote, lui, il semble que très vite, pour lui, c'est l'expérience qui est le point de départ de sa philosophie. Vous voyez, la réminiscence, pour Platon, c'est un problème très complexe. Hein, très complexe, parce qu'il semble bien qu'il y ait successivement dans Platon des visions différentes. La réminiscence, au début, explique la connaissance. La réminiscence, vous voyez en deux mots ce que c'est. Que avant d'être dans votre corps, votre âme était auprès des yeux contemplés. Et alors, elle avait souvent une vision contemplative merveilleuse. Et donc, il suffit de se rappeler. Alors, c'est dans le Ménon où on voit très bien l'esclave Ménon qui connaît la géométrie. On n'a pas besoin d'être enseigné la géométrie. Il suffit de se rappeler. Rappelez-vous. Vous étiez intelligent avant. Maintenant, vous êtes devenu bête parce que vous étiez lié à un corps. Mais avant, vous étiez intelligent. Rappelez-vous. Alors, il faut la réminiscence. Et c'est la réminiscence qui expliquait tout. Alors, je crois que Platon n'a jamais renié complètement cela, mais Platon a essayé de trouver d'autres sources de la connaissance. Et ça, je crois. Parce qu'on a, par exemple, dans le banquet, Diotime qui enseigne Socrate, la prêtresse. Là, c'est pas la réminiscence. Alors, on peut dire, évidemment, que c'est l'amour. C'est pas les idées. Dans le Parménide, on voit que Parménide enseigne Socrate. Là, c'est la dialectique. Ce n'est pas les idées. La dialectique, c'est lié aux idées. Mais alors, c'est très curieux. Et c'est ça, c'est un des problèmes très intéressants quand on étudie Platon, c'est de voir le point de départ de la philosophie de Platon. Est-ce que c'est uniquement la réminiscence ou est-ce que progressivement, Platon a découvert d'autres points de vue et que de plus en plus, le problème de la sensation est devenu important. Sûrement, parce que j'ai un étudiant de Fribourg, un Valaisan, qui a étudié tant qu'on peut étudier le progrès dans Platon, par le problème de la sensation, en voyant que la sensation prenait de plus en plus d'importance. Autrement dit, Platon revient à l'expérience. Aristote part de l'expérience, et c'est pour ça que j'ai dit de l'influence d'Aristote sur Platon. Parce que vous comprenez bien, Platon, il dépend de Socrate. Socrate, il dépend de l'oracle de Delphes. C'est un converti, Socrate. C'est un converti. Et converti sur le tard. Il a été militaire avant. Et c'est un converti. Avec Xénophon, il a été quand même les campagnes, le capitaine. Il a dit joie, l'important. Et puis, il s'est converti. Il a eu un moment, une grâce extraordinaire, un charisme. Un charisme à Delphes. Une secousse particulière, quand il voit soi-même, la connaissance de soi, et pour lui quelque chose d'extraordinaire. Alors à partir de là, il s'est mis à réfléchir, à penser, et puis à enseigner. Comme un peu, vous voyez, l'homme, il réagissait contre une politique qu'il savait plus où aller. C'est ça le gros problème de Socrate. Un homme qui a beaucoup souffert dans sa vie. Ça devait être un homme extraordinaire, Socrate. Quand on peut connaître les différents Socrates et voir que tout ça, ça représentait le même homme, dans les légendes, ça prouve qu'il avait quand même du caractère. Il y avait quand même quelque chose. Et c'est vrai, la physionomie de Socrate est quelque chose de très grand. Alors, il donne naissance à Platon. Ça, c'est sûr. Il a initié Platon. Et Platon, il s'est développé ensuite, après la mort de Socrate, il est revenu à la politique. Il a du sang politique dans les veines. Hein. Il ne faut pas l'oublier, c'est du sang d'empereur dans les veines. Alors ça lui donne quand même la petite bougeotte de pouvoir gouverner Athènes. Et alors il a toujours eu ce rêve, il a eu ce rêve. Chez Socrate, non, une fois qu'il a converti, sorti de tout ça. Tandis que Platon, il a essayé. Aristote, lui, un homme d'expérience, beaucoup plus, mais aussi un philosophe. Alors, c'est pour ça qu'on comprend très bien que ce problème se pose. Est-ce qu'on peut préciser? Alors, Jaeger a essayé de préciser certaines couches. D'autres sont revenus après Jaeger, en disant Jaeger exagère, n'est-ce pas? Alors, on comprend très bien, et au fond, on est devant. Le problème a été posé avec netteté par Jaeger, je crois que ça reste important, mais ça n'empêche pas qu'il y a un autre problème. Et c'est comme le problème exégétique et le problème de la signification. Il y a un autre problème, il y a un problème de comprendre ce que représente la philosophie première pour Aristote. Et ça, je crois que c'est capital, vous comprenez. L'autre, c'est un problème historique, donc c'est second. Il y a un problème capital, parce que Aristote cherche la vérité. Aristote veut donner une philosophie qui est une science. Il le dit en logique. L'épistémée, pour lui, c'est la recherche des causes. Et pour lui, la science par excellence, c'est la philosophie première. Il le dit textuellement, ça, on ne peut pas discuter là-dessus. Et donc, il y a quelque chose qui reste toujours dans Aristote, qu'on retrouve tout le temps, la recherche des causes. Et il montre que cette recherche des causes, elle se fait différemment selon les différents aspects de la philosophie. Et je crois que c'est cela qui correspond, on dirait aujourd'hui, à l'intuition profonde d'Aristote, à la manière de Bergson. Vous voyez, il y a quelque chose que nous devons découvrir dans Aristote, quelque chose qui porte en lui. Qu'il a découvert. Et c'est là où on voit très bien qu'il ne peut pas accepter ce que Platon lui donne, parce qu'il veut découvrir la réalité, il veut découvrir ce que c'est que l'homme. Alors, si je me place de cette manière, je crois que nous pouvons préciser que, en effet, la philosophie première représente toute une série de livres qui, d'une certaine manière, n'ont pas un ordre absolu, qui ont dû être enseignés à des dates différentes, des dates diverses. Ce n'est pas Aristote qui en a fait l'édition. Non. On a redécouvert ces livres, et puis on les a bloqués ensemble. Oui. C'est toujours très difficile, on vous laisse des notes, quelqu'un d'intelligent reprend les notes, il dit « oui, ça a dû être comme ça oui. ». Et là, ce n'est pas quelqu'un nécessairement de très intelligent qui l'a fait. Ce n'est pas le disciple d'Aristote qui a fait ça, ce n'est pas Théophraste. Non, non. Ça a dormi pendant très longtemps dans les bibliothèques. Puis un beau jour, ça s'est remis. Alors, si je prends, je vais simplement, avec vous, essayer de donner une coloration. Puis on verra ensuite s'il y a une certaine unité. Une coloration, il suffit de lire le livre. Le livre Grand A. On l'appelle le livre Grand Temps. Le livre Grand Temps, c'est qu'il y a un livre petit à trois, tout simplement. Il y a deux livres Grand Temps. Donc si vous dites livre premier, vous voyez, vous décalez, parce que alors ça c'est le livre 2. Et ce qui fait comprendre que saint Thomas prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc le livre petit A, il est décalé forcément. Il prend quelque chose de nouveau. Le livre Grand Temps représente sans doute une recherche très ancienne d'Aristote, sur la réflexion de ce que représente cette recherche particulière de cette connaissance nouvelle qui est sagesse. Vous savez comment commence ce livre Grand A ? Tous les hommes désirent naturellement savoir, Heidenheim. Ce qui le montre, c'est le plaisir causé par les sensations. Ça, c'est admirable. Vous voyez, la connaissance théorétique est prouvée par la joie que vous avez de voir. Car, en dehors même de leur utilité, elles nous plaisent par elles-mêmes. J'aime de regarder un beau paysage. Hein, j'aime de regarder ça, c'est un beau paysage. Je me délecte l'œil en regardant un beau paysage. Oui, c'est agréable. Eh bien, ça, c'est le signe que la connaissance a en elle-même une finalité. C'est merveilleux, ça. Tous les hommes désirent naturellement savoir ce qui le montre, le signe, c'est le plaisir causé par les sensations. Car en dehors même de leur utilité, elles nous plaisent par elles-mêmes. Et plus que toutes les autres, les sensations visuelles. Ah, ça c'est intéressant. Aristote est un voyant, comme les Grecs. Même qui aiment le voyant, ils sont visuels, ils sont des gens visuels. Et Aristote, c'est très net, hein. C'est le point de vue de la vue, qui est la sensation par excellence. La sensation la plus parfaite, c'est le point de vue de la vision. En effet, non seulement pour agir, mais même lorsque nous ne nous proposons aucune action, nous préférons, pour ainsi dire, la vue à tout le reste. Pensez à tous les tragiques grecs avec celui qui perd la vue. La chose la plus terrible, perdre la vue, devenir aveugle. La cause en est, alors tout de suite Aristote cherche, la cause en est que la vue est de tous nos sens celui qui nous fait acquérir le plus de connaissances et nous découvre une foule de différences, la diaphora. Elle nous est donnée par la vue, parce que c'est la vue qui est la sensation la plus précise. Donc, vous voyez le point de départ. Un point de départ très simple. Au fond, c'est une grande apologie de la philosophie. Lecture aux parents pour montrer que c'est pas mauvais du tout que les jeunes fassent de la philosophie. Mais c'est quand même intéressant. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui va pervertir. Non, non, c'est quelque chose d'excellent. Faire de la philosophie pendant quelques années de sa vie, c'est nécessaire si on veut être un bon grec libre et pouvoir ensuite s'adonner à autre chose. C'est nécessaire. C'est très nettement comme ça. C'est celui, alors on l'a dit peut-être que ce livre, c'est très difficile à savoir quand Aristote l'a vu, mais c'est peut-être très premier. Aristote écrit ça pour ses premiers étudiants, sans doute, pour leur montrer l'importance de ce que c'est que la philosophie, l'importance de ce que c'est qu'une sagesse, une philosophie qui doit aboutir à la sagesse. Et Aristote montre que de fait, tous les Grecs ont recherché les quatre causes. Tous les philosophes grecs ont recherché les quatre causes. Et donc, dans ce livre, Alpha, nous avons un petit résumé historique, critique, sur tous les devanciers d'Aristote. Et ce petit résumé se fait de cette manière, et c'est là où on voit à la fois le génie d'Aristote et en même temps la difficulté qu'il y a pour nous d'interpréter. C'est que Aristote montre que toute connaissance philosophique, c'est l'archive des quatre causes. L'archive des quatre causes. Et il arrive à montrer que tous les philosophes qui sont avant lui ont découvert l'une de ces causes. Mais aucun n'a découvert les quatre. Voilà la supériorité d'Aristote sur tous les autres. Aucun n'a découvert les quatre. En ce sens, Aristote est conscient dans son humilité philosophique et dans sa recherche de la philosophie, il est conscient qu'il est le premier à expliciter parfaitement la cause finale. Il reconnaît que Platon a mis en pleine lumière la cause selon la forme. On a appelé la cause formelle. Ça, la cause formelle, ce n'est pas d'Aristote. C'est la cause selon la forme. La cause qui recherche ce qu'est la réalité. Platon a mis ça en pleine lumière. Mais Platon n'a pas su découvrir, alors c'est là où les platoniciens bondissent en disant « Aristote n'a pas encore compris son maître, il a volé ça à son maître, et il a compris, que Platon avait déjà découvert la finalité. » C'est vrai que Platon a déjà découvert la finalité, mais l'a-t-il parfaitement distinct de la cause exemplaire? crois que chez Platon, c'est la cause exemplaire qui domine, et non pas la cause finale. C'est un très grave problème, ça, historiquement, c'est un problème très grave. Savoir si vraiment Aristote a découvert le premier la cause finale, distincte des autres causes. La finalité, Platon en parle, c'est bien évident. Mais est-ce que la finalité n'entre pas dans sa description philosophique au niveau de la cause, la cause exemplaire? Et je crois qu'il reste au niveau de la cause exemplaire. Toujours Aristote en conscience, dans sa sincérité philosophique, de découvrir ça. Donc le livre Grand A est un livre facile à lire, très intéressant pour voir la manière dont Aristote conçoit tous les philosophes avant lui. À ce point de vue-là, c'est très intéressant. Mais il faut déjà connaître toute l'histoire de la philosophie grecque. Pour que le livre Grand A prenne son intérêt, il faut connaître toute la philosophie grecque avant Aristote. Alors quand on connaît toute la philosophie grecque avant Aristote, c'est intéressant de voir la manière dont Aristote porte ça. Alors vous voyez que c'est intéressant parce que ça montre que pour Aristote, il y a bien deux sources à la connaissance philosophique. Il y a l'opinion des autres philosophes et l'expérience. Aristote ne philosophe jamais seul. Il philosophe toujours ou avec Platon, ou avec Démocrite, ou avec Anaxagore, ou avec Parménide. Il y a toujours quelqu'un avec qui il philosophe. C'est intéressant, ça, comme méthode philosophique. Au fond, autrement dit, il y a deux sources à la philosophie. Une première, qui est de savoir ce que les anciens ont dit. C'est un respect par rapport à l'homme. Qu'est-ce qu'ont dit les autres philosophes? Et puis la seconde source, l'expérience. Il y a toujours les deux. Et les deux viennent se corriger mutuellement. Alors évidemment, il y a un ordre entre ces deux sources.